I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'aime rien tant que les gros monstres, gentils ou méchants, les films où la fantaisie le dispute à l'angoisse, où l'on nous en met plein la gueule de vitesse, de maîtrise, de folie et de beauté. Et autant vous dire que dans ces catégories respectives, ils sont peu nombreux à régaler autant que le sud-coréen Bong Joon-ho, dont le dernier film Okja a fait sensation pour plein de raisons, bonnes comme mauvaises, au Festival de Cannes il y a quelques semaines. On en avait parlé à l'époque, je vous renvoie d'ailleurs à notre série d'émissions cannoises, mais à l'occasion de sa sortie officielle sur Netflix, on en remet une couche sur la filmo particulière et passionnante de ce monsieur, filmo qu'on va passer en revue ici à l'antenne Paris en public avec un duo de rêve, Arnaud Bordas d'un côté, salut Arnaud.
Salut Thomas.
Et David Honora de l'autre, lâche ton téléphone David, bonjour.
Salut Thomas.
C'est nos ciné épisode 92 et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Oui, je te traite comme un adolescent David, je suis désolé. Okja, puisqu'on va commencer par là, tiens, tant qu'à faire. Okja, c'est l'histoire de la bestiole gigantesque du même nom, sympathique animal qui s'égaye dans la nature avec sa meilleure amie, la jeune Mija, incarnée par Han Seo-yeon, qui va devoir se lancer dans une quête périlleuse lorsqu'Okja est enlevé par une firme multinationale pour être débité en côtelettes. Firme dirigée par la redoutable et terrifiante Nancy Mirando, alias Tilda Swinton.
Ladies and gentlemen, put your hands together!
Alors je sais qu'on en a déjà parlé durant Cannes, mais une fois l'euphorie du festival passée, messieurs, quel souvenir vous gardez du film, Arnaud ?
Alors moi j'ai encore un souvenir très 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 prégnant de la projection de, du film à Cannes.
Des gens qui se jettent des bouteilles de bière à la tête. Ouais,
je sais pas, il y a des bruits bizarres. Mais celui-là. Donc ouais non j'ai un souvenir encore très vivace de cette projection du film quoi dont je me rappelle encore toutes les grandes scènes marquantes. Hein, et, je sais pas, c'était il y a un mois maintenant, Cannes, à peu près, quoi. Peut-être un peu moins.
À l'heure où nous enregistrons cette émission.
Voilà, et en général, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est déjà un signe où je me dis, bon, bah, c'est un film qui va bien me rester en tête, quoi. Mais ouais, c'était une belle claque. C'était la plus belle du Festival de Cannes, moi, en ce qui me concerne. Pour plusieurs raisons, hein. Déjà parce que c'est un film qui ne... voilà, dans la sélection du film dans la sélection officielle de Cannes, autant que ce soit en compétition, hors compétition, en section parallèle, il y a quand même beaucoup de films qui se ressemblent. Celui-là ne ressemblait à aucun autre, quoi. Il y avait pas de comparatif possible, quoi. Après, on peut aimer ou ne pas aimer, hein, mais c'est un film qui ne ressemble qu'à lui-même. Et comme souvent, les films de Bong Joon-ho. Donc déjà pour ça. Ensuite, parce que c'est un film qui brasse, au-delà des genres qui brassent les ruptures de ton, on va dire, entre pas en particulier entre cinéma familial et cinéma un peu plus radical, quoi. Mais je pense que après ça peut être un débat, hein, à partir de quel âge on peut montrer ce film, mais je pense que justement c'est souvent la marque des plus grands films pour enfants que de les confronter aussi à des choses graves, à des choses effrayantes. Voilà, parce que c'est un film qui, dans sa première partie, est très bucolique, rend directement hommage à Totoro, et il cite le film de Miyazaki. Ça m'a aussi séché, parce qu'il faut arriver à le faire, quoi. Quand on cite des films comme, je sais pas moi, comme Totoro, comme Citizen Kane, comme Le Bon, la Brute et le Truand, il faut en avoir sous le capot, quoi, pour pouvoir prétendre à ça.
En voiture, quoi.
Voilà. Et donc il réussit, le gars, c'est formidable. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de on va dire, la quête que vivent la petite fille et son animal, ça se durcit de plus en plus, c'est-à-dire on est confronté à, bon, ça c'est quelque chose qui fait partie de la marque de fabrique de Bong Joon-ho, à une satire aussi sociale. Bon, c'est vrai que après la projection à Cannes avec David, là, je lui avais dit, moi, l'impression que j'avais, c'était un peu Totoro réalisé par Terry Gilliam, mais alors pas réalisé au sens technique du terme, parce que c'est pas du tout le même style, hein, visuel, Gilliam et Bong Joon-ho, mais au niveau des thématiques, quoi, parce que c'est vrai que ça vire au déboulonnage de sociétés de consommation capitalistes, tout ça. Mais ce qu'on a vu aussi dans d'autres films pour enfants, après tout. Je sais qu'à la conférence de presse de Cannes, Bong Joon-ho a revendiqué l'influence de Babe 2 aussi, de George Miller. Donc, ce qui n'est pas rien non plus, et qui est un film aussi un petit peu dans cette lignée-là, un film pour enfants assez, enfin qui ne s'interdit pas d'aller dans des contrées parfois un petit peu difficiles pour les enfants, ou en tout cas pour l'image qu'on aimerait se faire des enfants. Et voilà, donc c'est un film qui regarde son spectateur sans regarder à côté, quoi, qui le regarde droit dans les yeux, quoi, vraiment. Et qui lui propose beaucoup de choses, quoi. Voilà, bah, comme souvent avec Bong Joon-ho, hein, c'est un peu, enfin moi en ce qui me concerne, c'est un peu le festin à chaque fois.
Et on en parlera dans la suite de l'émission du reste de sa filmo. Un petit mot sur Okja, David. Je sais pas si je le prononce bien, Okja.
Okja. Okja.
Okja.
Okja.
Okja.
C'est un film important et en fait son caractère de film Netflix, à mon avis, est assez important parce que dans les procès qui ont été faits à Netflix au moment du Festival de Cannes, il y a notamment la question de l'impérialisme culturel américain. Et en fait, mine de rien, c'est un film qui justement brise cet impérialisme, puisque c'est un film réalisé par un réalisateur coréen qui se passe un petit peu dans le monde entier et qui fait intervenir des acteurs du monde entier, qui renvoie un imaginaire qui emprunte, comme l'a dit Arnaud, autant à Miyazaki que effectivement à Terry Gilliam, mais plutôt de l'époque du Baron de Munchausen ou ce genre de cinéma. Et cette richesse-là, cette richesse qui renvoie justement à la diversité d'un cinéma mondial, et pas que justement à l'impérialisme d'un cinéma américain, c'est ce qu'on aimerait voir défendu par Netflix, et qui transcende un peu les débats qui ont lieu au moment du Festival de Cannes. En même temps, le risque, c'est que ça soit une devanture qui, au bout d'un moment, est escamotée. Je pense notamment au fait que la série Sense8 ne soit pas renouvelée.
Ce sera l'objet d'une prochaine émission, David.
Ça me peine beaucoup.
Je sais, ben, moi aussi.
Donc je pense que c'est un film important. C'est un film aussi où, pour le coup, je regrette qu'il va être plus que difficile, en fait quasiment impossible pour le spectateur français de le découvrir sur grand écran. Je dis quasiment impossible parce que je viens de recevoir un petit communiqué de presse de SoFilm.
Génial, en direct.
Qui va faire quelques.
Couper les rotatives.
En fait, SoFilm va faire quelques séances exceptionnelles sur grand écran dans le cadre de ses festivals à Nantes et à Bordeaux. Donc, il y aura une projection à Nantes le 28 juin, une projection à Bordeaux le 6 juillet et 3 projections à Paris le 28 juin. Le problème, c'est que ce sera des séances gratuites dans la limite des places disponibles. Donc, je pense qu'il va falloir, se lever tôt pour pouvoir voir les films. Mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est un pur film, un grand spectacle, qui tire vraiment.
Il y a une projection
intérêt.
Demain matin sur Paris, je crois. Mais alors, je ne sais plus si c'est projection.
Oui, alors le demain matin du podcast.
Le demain matin du podcast, ça marche plus, Arnaud.
C'est dans le passé.
Je m'en vais.
Voilà. Il n'est pas compris encore comment ça marche. Il pensait qu'on était en direct.
Mais à l'inverse, le truc, c'est que pour la plupart des auditeurs, ça sera la possibilité de le découvrir sur Netflix et du coup de le voir dès sa sortie, finalement, autant de fois qu'on veut, de se repasser en boucle l'incroyable scène de la poursuite dans le centre commercial, qui pour moi est un des grands chocs de ces dernières années. Donc voilà ce que j'ai à dire sur Okja. Donc
on peut enchaîner
sur
la carrière de Bong Joon-ho.
Et je vais donner la main à Arnaud, qui a vu son tout premier film qui est un peu plus méconnu et que moi je n'ai pas vu.
Il y a déjà une dizaine d'années, je l'ai vu. Donc c'est un bon film. Enfin, c'est un bon
film.
On
parle de Barking Dog, là, du coup.
Barking Dogs. Voilà. Attends que je ne dise pas de bêtises. Barking Dog Never Bites. Oui. Voilà, le titre entier. Oui,
Chien qui aboie ne mord
pas. Il est sorti en DVD il y a 4-5 ans peut-être, sous le titre, en France, sous le titre Barking Dog. Mais c'est un, moi, alors je l'ai vu en fait après Memories of Murder.
Qui était sorti en 2003, lui.
Voilà, parce que j'avais envie de voir le premier film de ce réalisateur étonnant, quoi, vu l'ampleur de la claque qu'était Memories of Murder. Je ne sais pas si. Je pense que si le film m'était passé devant avant Memories of Murder, je ne dis pas que j'aurais dit voilà un grand cinéaste. Oui. Mais en tout cas, ce qu'on peut reconnaître, c'est qu'il y a un univers. Ça raconte en gros, c'est une sorte de chronique d'un immeuble. Le titre Barking Dogs Never Bite, les chiens qui aboient ne mordent pas, parce qu'en fait, il y a un des locataires qui sont portraiturés dans le film de l'immeuble, qui est en but aux aboiements d'un chien. Voilà, ça c'est au début du film, et puis après, il y a une histoire avec ça. Mais en gros, c'est un portrait de groupe, d'une chronique comme ça de la vie d'un immeuble. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent, mais c'est un film. On va dire ouais, qu'il pose un petit peu la sensibilité, le ton du cinéma à venir de Bong Joon-ho, mais c'est pas un truc, c'est clairement pas un truc de l'ampleur de Memories of Murder. C'était sur la base de ça, c'était impossible de prévoir ce qu'allait devenir ce gars-là. Et alors moi, c'est un film quand même que j'aime assez, mais que Bong Joon-ho déteste totalement, quoi.
Oui.
C'est-à-dire, moi, je me rappelle, c'était, je crois, pour The Host, je lui avais amené le DVD à dédicacer. Et après l'interview, quoi.
Et il t'a cassé la gueule. Bah ouais, ça,
ah non, mais
ça arrive des fois.
Non, non, mais il l'avait très mauvaise, quoi. C'est-à-dire,
ah oui.
C'est-à-dire, il m'a dit, je ne sais plus, je crois qu'il m'a, oui, il m'a carrément demandé, vous voulez vraiment que je le dédicace? J'ai dit, bah oui, ça me fait plaisir. et il m'a dit, je déteste ce film, c'est pas mon film. Enfin, et je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, parce qu'il n'a même pas voulu expliquer. Il m'a dit, c'est pas moi. Alors, je ne pense pas qu'il parlait en termes de production, qu'on lui a volé son film ou quoi. Ouais. Hein. Ou quoi, je pense qu'il estime que il a merdé complet, quoi, et que ce film n'était pas.
Il n'assume plus ce film-là.
Ce film n'est pas. Ouais, il n'assume plus vraiment. Je crois qu'il avait même employé. C'est le pire cauchemar de ma vie que ce film existe, quoi. Enfin,
oui.
Ouais, moi je comprenais pas, parce que je lui disais attendez, bon, j'essaie de me placer de votre point de vue, mais c'est quand même pas une purge, le film, c'est pas honteux, quoi. Mais bon, il le déteste totalement et il le renie maintenant, quoi.
Et ouais. Du coup, l'aspect chronique sociale que tu décris, ça reste quand même quelque chose qui est présent dans tous ces
chronique sociale, portrait de groupe, des relations des fois familiales. Merci. Et donc tout ça, oui, effectivement, c'est des choses qui vont se retrouver, notamment dans The Host. Il y a beaucoup de points communs entre Barking Dogs et The Host, quoi, avec ce portrait de la famille coréenne comme ça qui vit au bord de la rivière, et d'observer les gens dans leur quotidien, mais en même temps avec tous les détails qui viennent faire ripper ce quotidien-là, quoi. Voilà. Et ça, c'est déjà dans le premier film, quoi.
Tu le disais, Arnaud, Bong Joon-ho, on l'a vraiment découvert, en tout cas côté européen, avec Memories of Murder, qui avait été un petit phénomène, un véritable phénomène au moment de sa sortie, donc en 2003.
Mmh. Ouais, Memories of Murder, c'était... Alors le film ressort en salle, là, cet été, le 5 juillet, en version restaurée 4K. Et donc c'est le moyen de redécouvrir sur grand écran pour ceux qui n'ont pas pu avoir la chance de voir le film sur grand écran, parce que je pense que l'expérience de la salle, elle est importante pour le film, parce que non pas que ça soit spectaculaire, hein, pas du tout, mais c'est un film qui dans lequel on s'immerge peu à peu totalement, quoi. Donc forcément la salle facilite ça. Et c'est un polar, en gros, pour faire vite, hein, Memories of Murder, c'est tiré d'une histoire vraie, hein. C'est un peu, il y en a qui ont comparé le film à Zodiac, hein, notamment, en disant que c'était le Zodiac coréen, parce que c'est une histoire vraie qui n'a pas été résolue, d'un tueur en série qui a ensanglanté un petit coin de campagne coréenne, je crois au début des années 80, il me semble, ou au milieu des années 80. Et donc le film raconte ça, la découverte des cadavres de jeunes femmes, toutes dans la même position, avec les mêmes blessures, tout ça, qui se multiplient dans cette région, et les enquêtes, non pas parallèles, mais en commun, de deux flics locaux, du village du coin, là, de la petite ville où ça se passe, et d'un flic venu de Séoul, de la capitale, pour pouvoir leur prêter main forte. Et donc déjà, ce qui est étonnant, c'est que moi, j'aime beaucoup ça chez Bong Joon-ho. C'est quelqu'un qui ne résout pas en général définitivement le sort de ses personnages, mais je parle d'un point de vue notamment moral, quoi. Oui. C'est-à-dire il y a des personnages dans Memories of Murder. Je vais essayer de pas trop spoiler quand même. Hein,
non.
Pour ceux qui n'ont pas vu et qui pourront avoir l'occasion de le revoir en salle.
On leur conseille vivement.
Mais il y a des personnages qu'on met dans un tiroir. Et quand on se dit, y a en gros, un des flics, là, par exemple, on se dit, bon, ben lui, c'est un gros bourrin, c'est un gros bœuf, qui comprend rien à la vie, voilà. Et puis, l'espace d'une course-poursuite, on est avec lui, et l'intuition qu'il a, en tout cas, l'observation, le talent d'observation dont il fait preuve, nous enthousiasme, quoi. Donc, c'est jamais définitif chez Bong Joon-ho, et en soi, c'est pour le spectateur, c'est assez jouissif parce que on n'est jamais persuadé de savoir comment ça va se terminer, tout ça, pour tel ou tel personnage, quoi.
David,
c'est intéressant, en fait, le fait que ça soit son deuxième film, parce que pour le coup, c'est un film extrêmement ambitieux qui a demandé énormément de préparation, une préparation méticuleuse. Il a passé plus d'un an à faire des repérages. Toutes les séquences du film sont tournées sur les lieux où effectivement ont été retrouvés les cadavres, etc. Et dans le contexte de faire ce film en Corée, évidemment, comme c'était un fait divers qui avait marqué les gens, voilà, il y avait beaucoup de pression à réaliser ce film. Et en fait, même s'il n'assume pas son premier long métrage, j'imagine que le fait d'avoir pu s'essayer, en fait, maîtriser l'aspect cinéma d'un tournage lui a permis d'avoir la confiance nécessaire à réaliser ce film qui, d'une part, est extrêmement ambitieux sur son sujet et, d'autre part, formellement, extrêmement abouti. Il y a un travail, c'est là pour le coup effectivement qu'on découvre tout de suite un très grand cinéaste, c'est-à-dire que la composition de chaque plan, la manière dont il réussit à mettre en scène, souvent dans des plans assez larges, par le mouvement de ces différents personnages et à raconter quelque chose d'assez élaboré, on sent que c'est tout de suite quelqu'un qui comprend le langage cinématographique et qui va l'utiliser la meilleure des manières. Et par ailleurs, c'est un aspect important qu'on retrouvera dans le reste de sa filmographie, c'est-à-dire que il reste très collé au genre qu'il aborde. Donc, en l'occurrence, c'est le polar, le thriller. Et en même temps, on va retrouver ce qui, pour moi, est sa touche personnelle au-delà de son style de mise en scène. D'une part, une touche d'humour importante, qui est parce que, enfin, le sujet est extrêmement sombre et malgré tout, il y a toujours de l'humour et une grande variété d'humour, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du comique de situation, même du comique physique ou burlesque.
Les flics qui n'arrêtent pas avec les gens qui
de se
péter la gueule, ou les gens qui s'interrogent. Je sais pas, il y a une passion dans ce film pour les on appelle ça les coups de pied sautés, quoi.
Ouais, voilà. Dans tous ces films.
Les personnages, et en général, ils en profitent quand ils sont un peu en hauteur et que leur victime est en bas. Ils leur sautent avec un pied ou avec les deux pieds sur la poitrine.
Le petit saut latéral à pieds joints, on retrouve, c'est la signature Bong Joon-ho.
Mais c'est vrai que c'est très marrant et c'est frappant parce qu'en fait ça surgit dans une intrigue qui va, qui avance comme ça et qui est de plus en plus impressionnante, qui est de plus en plus où il y a une angoisse sourde vraiment, quoi, qui gronde, et puis d'un coup comme ça, boum, il y a des touches d'humour. Enfin, mais ça, c'est le maître de la rupture de ton, quoi, Bong Joon-ho.
Et puis l'autre aspect qu'on retrouve, c'est le côté satire sociale et la manière dont il va mettre en évidence les failles de la société, des institutions, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui devient, à mon avis, enfin, encore plus central dans son film suivant, qui est The Host, qui est là, dans un genre complètement différent. C'est entre le film de monstre et le film catastrophe. En gros, ça tu veux dire quelque chose?
Ouais, je voulais juste terminer, puisqu'on passe à The Host sur Memories of Murder. Ouais.
Parce qu'en plus, il faut qu'on avance assez vite. Ouais. Qu'on arrive au terme.
Je vois des grands signes.
Tout à fait, tu vois que je fais des gestes.
Eh bien, alors passons. Alors continuons.
Alors continuons. Merci.
Et donc, The Host. The Host, c'est un point de départ assez classique du film de monstre avec, en gros, un scientifique qui fait l'erreur de balancer un tas de produits chimiques hyper dangereux dans la rivière du coin.
Comme ça,
manque de bol, ça crée des mutations et il y a un énorme monstre qui va terroriser tout le patelin. Et en fait, on suit une petite famille bigarrée, typiquement coréenne, je ne sais pas, mais en tout cas avec une petite fille, un mec qui tient une sorte de petite épicerie.
La fille qui est une sportive émérite.
Qui fait du tir à l'arc et qui a un personnage hyper mémorable. Et d'ailleurs, c'est l'actrice Bedouna qui joue plus tard dans Claude Atlas et dans Sense8.
Sense8 qui ne sera pas reconduit.
Voilà. Et qui est une des meilleures actrices coréennes, à mon sens. Et donc, en fait, on va suivre à la fois le destin de cette famille, le rapport aux autorités, et il y a aussi tout un discours sur la présence des Américains en Corée. Et est-ce que ça impacte sur la vie des gens et pour le coup une forme d'impérialisme contre lesquels les Coréens ont du mal à s'émanciper. Et voilà, on est dans un film qui réussit en fait à être très impressionnant, à faire du grand spectacle. Il y a quand même toute la créature qui est faite en image de synthèse
par les studios Veta,
est impressionnante et très efficace. Et puis on suit à la fois donc ce côté film catastrophe qui devient pendant une grande partie du film assez politique.
Film de monstre, film catastrophe, drame familial, film politique, c'est ça.
C'est
prodigieux. C'est un truc.
Pour conclure, messieurs, on va devoir terminer parce que là, on est en train d'exposer tous les textes.
Vous allez pas beaucoup parler de Lost.
Un mot chacun sur un sur Mother, l'autre sur Transpersonnage. Mother, ce sera pour David.
Je vais essayer très vite sur Mother qui, à mon avis, est à mon sens à ce jour encore son meilleur film, qui est un pur thriller et un pur polar, et en même temps très sentimental et en même temps familial et passionnant, et qui parle finalement la simplicité thématique du film permet à Bong Joon-ho de mettre en valeur tous ses talents de metteur en scène, et donc ce que je disais sur la composition, sur la mise en scène des groupes, se retrouve à mon avis à son meilleur ici, et puis ça donnera lieu ensuite à un film complètement différent qui est le Transpersonnage.
Arnaud, si tu prends
Transpersonnage, c'est spécial, c'est difficile.
Adaptation d'une bande dessinée française.
Résumé, adaptation d'une bande dessinée française, totalement oubliée, que Bong Joon-ho a ressorti des limbes. Et
gros. Pourtant, est un chef-d'œuvre de la bande dessinée française, je le dis au passage.
J'en parlerai après peut-être. Mais gros budget, Okja est un encore plus gros budget.
Encore plus gros.
Et à l'époque, c'était quand même 40 millions de dollars, le budget de Transpersonnage. C'était énorme. Casting international avec des grosses vedettes du moment, quoi, comme Chris Evans. On n'en a pas beaucoup parlé jusqu'ici, mais il y a Song Kang-ho, qui est l'acteur fétiche de Bong Joon-ho, qui jouait déjà dans Memories of Murder et The Host. Il y a Ed Harris, il y a John Hurt, il y a un très gros casting.
Casting 3 étoiles.
Ouais. Et puis il y a Tilda Swinton aussi, qui est en train de devenir son autre acteur fétiche, actrice fétiche. Et voilà, c'est un film. Alors là, c'est son film le plus spectaculaire. Hein. C'est un film post-apocalyptique avec ce train qui tourne sans cesse autour de la Terre parce que une Terre totalement gelée qui a sombré dans une nouvelle ère glaciaire et qui transporte à son bord les survivants. Et ça permet une fois de plus à Bong Joon-ho de revenir sur ses thématiques sociopolitiques puisque le train s'organise en strates sociales, des wagons de tête, des wagons de queue, pardon, qui sont dans la misère la plus totale, jusqu'au wagon de tête qui vise dans l'opulence, la richesse la plus complète. Et donc voilà, les pauvres remontent le train pour créer une rébellion. C'est son film le plus, moi je trouve, le plus offensif, le plus coléreux. Si tant est qu'on puisse dire que son cinéma est colérique, mais il y a une vraie rage interne.
C'est le plus vindicatif.
Voilà. Je trouve personnellement, peut-être le seul petit défaut que je reconnaîtrais, c'est que je sais que ça m'a un petit peu gêné à l'époque, la première vision, mais c'est, je pense qu'il en fait, vu l'ampleur du sujet, il aurait dû avoir un budget plus gros. Quoi. Et, 40 millions de dollars, c'est énorme pour les Coréens, mais pour aux États-Unis, c'est pas grand-chose. Et ça manque un petit peu de l'ampleur narrative qu'avait la BD quoi, à la base.
Qu'on conseille donc, dont on conseille la lecture.
Bah, c'était Marocco. Formidable BD de Jean-Marc Rochette et Loeb.
Tout à fait.
Qui avait été oublié pendant 30 ans.
Tombé en désuétude, malheureusement. Mais ça va trop vite, mais ça donnera l'occasion, j'espère, aux gens qui nous écoutent, donnera l'envie, en tout cas, aux gens qui nous écoutent, de revoir ou de voir tous ces films de Bong Joon-ho dont on a parlé. Et surtout, donc, de regarder maintenant Okja sur petit ou sur grand écran, s'ils ont le temps d'aller aux séances dont a parlé David. On vous mettra tous les liens qu'il faut sur notre page. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Julie la Technique. Merci au public. Merci à Antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir aussi. Info à retrouver sur binge.audio également, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous nous écoutez via iTunes, on le dit à chaque fois mais on le répète quand même, prenez, si ça ne vous embête pas, une poignée de secondes pour laisser un maximum d'étoiles à ce podcast. C'est très utile pour nous, ça ne vous coûte rien, c'est gagnant-gagnant, un deal de rêve. On vous remercie d'avance, on vous dit à très vite.
Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.